On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson, sur fond vert bouteille, mèche blonde sautillante, sourire gracieux, teint post-estival rayonnant, aussi vitaminé que la tranche d'orange qu'elle porte à son visage, et ce t-shirt arborant avec fierté ce slogan militant, Hummus with Pita. Voilà, je fais un peu mon Augustin Trapenard, vous avez remarqué.
C'est un peu mon cri de guerre.
C'est ça, c'est pour vous décrire Elvira, non pas telle que vous êtes dans notre studio de France Inter, mais telle que vous êtes en couverture de votre premier livre de recettes. Dans ma cuisine, recettes de tous les jours, simples et généreuses, inspirées de mes rencontres et de mes voyages, c'est aux éditions Marabout. Il y a quand même 150 recettes. Vous n'avez pas chômé, hein.
C'est un sacré... Non, j'ai pas chômé.
C'est un sacré boulot.
Oui. Mais je voulais faire quelque chose qui représente un petit peu la manière dont ma cuisine s'exprime, donc qui peut partir un peu dans tous les sens, de tout près, qui peut aller plus loin. Et je me suis dit que plus il y en aurait, mieux ce serait.
Mentionnons d'emblée ces très belles photos, spontanées, naturelles. À votre image, j'ai envie de dire.
Oh, c'est gentil.
Signé du photographe.
Pierre Lucet Pénateau.
Il a fait un très beau travail.
Un super travail. Tout a été photographié en lumière naturelle, ce qui n'était pas toujours simple quand on photographiait ça dans ma petite cuisine minuscule au mois de novembre. Mais je trouve qu'il s'en sort vraiment très gracieusement et joliment et que c'est son traitement photographique est simple, un peu comme mes recettes qui sont vraiment simples.
Sur papier, un peu brillant.
Un peu brillant.
Et effectivement,
ouais.
Vos recettes sont simples. On va en parler. On va dire que vous êtes familière et votre cuisine, elle est déjà connue des auditeurs et des auditrices de France Inter puisque ça fait désormais en qualité de chroniqueuse historique, 10 saisons que vous nous fournissez certaines de vos recettes. Alors commençons évidemment par cette marotte sur laquelle je vous charrie très souvent, puis en même temps c'est une allusion effectivement à ce t-shirt Hummus with Pita, le fameux pois chiche. Je m'attendais à une orgie de pois chiche à toutes les pages, vous avez été assez raisonnable.
Et vous êtes déçus en fait.
Il y a quand même du hummus.
Il y a du hummus, il y a une soupe que j'adore qui n'est pas de moi parce qu'il y a pas mal d'emprunts dans ce livre, ou plutôt peut-être des hommages. Mm-hmm. Je m'inspire de personnes dont le travail me marque, et notamment cette cuisinière qui s'appelle Perla Servan-Schreiber, qui signe des livres de recettes, et elle fait une soupe géniale qu'elle appelle gaspachiche, le gaspacho de pois chiche, c'est pas facile à dire,
ouais.
Que j'ai un tout petit peu arrangé à ma sauce avec du pois chiche, du yaourt, de la pulpe de tomate, du céleri, de l'oignon. Moi, j'y mets un petit trait de vinaigre de Xérès. J'ai un condiment pois chiche citron confit. Je mets des pois chiches dans une recette de coque. Il y en a, mais effectivement, j'ai un peu muselé ma,
plutôt,
j'ai muselé ma
plutôt...
passion.
Raisonnablement, et ça correspond à cet univers végétal que vous aimez. On en revient tout naturellement au thème du jour. Alors essayons de régler cette question de votre rapport à la viande. On peut le qualifier d'assez raisonnable. Vous êtes très penché sur le végétal. Ça se sent à chacune de vos pages. Et la viande, qui est là, par endroit, joue plus le rôle un peu de garniture ou d'accompagnement du végétal.
C'est ça. Il y a des vraies recettes carnées. Il y a un poulet à l'estragon que je vous dois d'ailleurs, François Régis. C'est la recette de la mère d'Anne-Sophie Pic que vous faites et que je vous ai donc volé. Encore un emprunt. J'ai un curry japonais, des kefta, un mafé de bœuf, un filet de bœuf gravlax à la suédoise. Mais pour le reste, c'est vrai que la protéine animale vient un peu ponctuer des recettes très fondées sur les légumes, les légumineuses, l'œuf, un petit peu, pas mal de fromage, pas mal de yaourt. Donc j'ai un rapport complètement raisonné, raisonnable, et j'essaye d'acheter de la viande chez des bouchers dont je sais que le travail est vertueux, qui se fournissent auprès d'éleveurs qui travaillent bien, et des bouchers qui peuvent acheter des carcasses entières. C'est important aussi dans le travail de boucherie, c'est un savoir-faire qui s'est perdu.
Cuisine à penchant végétal, cuisine également simple, très modeste. Techniquement, on pourrait la qualifier de low-tech. Il y a très peu d'ustensiles nécessaires. D'ailleurs, il y a des techniques qui parlent évidemment et qui rappelleront des souvenirs à ceux qui nous écoutent. Les sardines en boîte de Mitsuko, hyper simple à faire. La pizza à la poêle, ça c'est même quand on n'a pas de four. Quand on est un étudiant dans une studette de 12 mètres carrés avec une plaque de cuisson, on peut faire une pizza avec
C'était
une poêle.
C'était mon passe-temps préféré pendant le premier confinement. Il m'a été enseigné par Maeva, qui tient la fabuleuse pizzeria que Arnaud connaît par cœur. Je m'en vais qu'à chaque fois qu'il
le est dans le
Et elle m'a appris cette pizza, pizza de système D que l'on faisait historiquement à Naples quand on se débrouillait, on avait sa pâte à la maison.
Une tôle chaude, avec un peu de feu dessous.
Et on allait éventuellement la finir auprès du four voisin. Recette toute simple.
Les œufs marinés, ce soja évidemment. Alors là, on va
Je crois que les auditeurs en ont peut-être un peu ras-le-bol.
Un œuf de poule.
Un jaune d'œuf.
Qui est cuit dans
par
une solution.
Le sel de la sauce soja. C'est-à-dire qu'on le laisse tremper 2 heures si on veut un œuf encore très mou, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 20 heures, 3 jours, si on veut une texture particulièrement
de poutargue. Si on veut jouer à la pétanque avec, c'est 15 jours.
Et ça va avec tout, c'est un bol de riz, des poireaux, enfin c'est très très versatile en plus.
Et il y a un paradoxe dans votre cuisine, c'est qu'elle est, on l'a dit, très modeste techniquement, avec assez peu d'ingrédients, et en même temps elle est totalement sans frontières, ouverte au monde. Elle est nourrie par une curiosité insatiable qui est bien la vôtre. Alors on retrouve évidemment les petites influences scandinaves de votre maman, votre prisme énorme pour la cuisine anglo-saxonne, et notamment tout ce qui est baking, c'est-à-dire la boulange, la pâtisserie de maison. La Méditerranée, très très forte hein, dans votre univers. L'Asie aussi, par endroits. Il y a même aussi une moqueca de poisson pour évoquer le Brésil. Enfin vraiment, vous tapez dans tous les sens.
C'est qu'il y a plein de pays où je ne suis pas allée, où je n'ai pas mis les pieds, et j'ai l'impression qu'en farfouillant, en tirant les fils d'une recette, je lis beaucoup de choses qui concernent les cuisines du monde entier, en tirant le fil des aubergines afghanes à la tomate et aux oignons et à l'ail, c'est une recette géniale qui s'appelle Banjan Borani, j'ai l'impression d'aller un peu en Afghanistan, je voyage un peu à bord d'une recette. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à farfouiller.
À farfouiller.
Farfouille pour mes chroniques aussi, en fait. Je farfouille parce que j'ai besoin de farfouiller pour pouvoir nourrir les sujets que j'ai envie d'évoquer dans l'émission. Et comme je farfouille, je tombe sur une recette, je la teste et elle finit dans mon bouquin. Tout infuse un petit peu tout.
Moi, je garde un super souvenir du coucou Sabzi. On est du côté de la Perse, de l'Iran.
C'est une omelette aux herbes. C'est plutôt beaucoup, beaucoup d'herbes liées par de l'œuf. Un peu comme une frittata, mais vraiment très, très, très chargée en herbes, avec évidemment beaucoup d'aneth, parce qu'en Iran, on cuisine beaucoup l'aneth. On peut y mettre des petites baies un peu acidulées, comme de l'épine vinette, mais très, très compliquée à trouver, donc on peut mettre, pourquoi pas, des érelles ou de la canneberge. C'est vraiment plein d'herbes liées par un peu d'œuf et un tout petit peu de farine, et ça cuit au four.
C'est un 150 gâteau. Recettes, très simples. Je me suis régalé à chaque page, je dis pas ça parce que c'est la copine Elvira et que c'est la chroniqueuse, mais vraiment, vraiment, ce livre est hautement réjouissant. En plus d'être un très bel objet. Racontez-moi en un mot ce que vous avez dans votre assiette.
Ce qu'on mange là, en tout cas, c'est très très bon. D'abord, j'adore les choux de Bruxelles, donc ça tombe très bien. C'est la première fois que je les mange accompagnés avec des agrumes et des noix. Et je trouve ça absolument formidable. Si le reste est à l'avenant dans le bouquin, courez-y, ça vaut vraiment le coup.
Merci beaucoup.
Émilie Dardenne.
Oui, je confirme. C'est super.
C'est bon.
Émilie Dardenne a la version donc sans protéines animales, donc sans raloumi, et vous tous, vous avez le raloumi qui est un fromage assez génial, donc il n'y a pas un goût dingue.
Oui, il n'est pas franchement nécessaire là, sur le coup.
Ah, oui.
Il ajoute quelque chose en texture, c'est vrai.
Il a cette texture géniale.
Il a ce petit côté, un peu
squinch.
Mais très sincèrement, là, le plat lui-même, sans ce fromage, il est déjà très très bon. Quoi. Enfin, moi, je mange ça volontiers comme ça.
Une petite poêlée rapide de choux de Bruxelles. Avec des noix, quelques quartiers d'orange.
Noix de pécan, ça pourrait être des noix. Hein.
Et ces tranches d'aloumi, qui est ce fromage chypriote à faire griller. Et on obtient cette délicieuse recette. C'est hallucinant le nombre de recettes que vous avez faites pour cette émission. Vous confirmez votre statut de bec sucré, Elvira.
J'avoue.
Avec des influences de partout.
Oui. J'aime beaucoup faire des gâteaux. C'est vrai que c'est une pratique de, comme vous disiez tout à l'heure, de baking, de gâteaux faits maison. On a toujours un peu le four allumé dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves. Et c'est vrai que j'aime bien. C'est des gâteaux très simples, hein, comme celui que je vous ai préparé là. Et je regarde pas mal, effectivement, du côté des recettes familiales, des recettes américaines, anglaises.
Alors,
c'est un peu...
dans les recettes familiales, il y a page 282, juste pour déguster votre formidable accent suédois.
Hannas franska äppelkaka.
C'est magnifique.
C'est bien parce que c'est court en plus comme nom.
Mais donc, il est très simple à faire, la photo est irrésistible et c'est un gâteau aux pommes, c'est votre madeleine d'enfance que vous cuisinez votre maman.
Oui.
On salue Eva, qui est d'origine suédoise.
Qui est suédoise, pas d'origine.
Oui, absolument, qui est suédoise. Et puis, il y a également évidemment un prisme anglo-saxon assez prononcé avec cette recette que vous nous avez préparée.
C'est un cobbler. Alors le cobbler, c'est vraiment un gâteau typiquement américain que l'on prépare plutôt l'été aux États-Unis avec des pêches. Le peach cobbler, c'est vraiment le gâteau des familles. On le mange notamment, enfin on le mange tout l'été aux États-Unis. Il est très bien avec plein d'autres fruits. Moi, dans le livre, je l'ai fait aux pêches. Il est super avec des reines claudes et des prunes, mais là, on touche vraiment trop à la fin. Donc je vous l'ai préparé aujourd'hui avec un mélange de poire, de coing et de figues.
C'est bon ça.
Très, très bon. Voilà.
Le cobbler, c'est un appareil à crumble, c'est-à-dire c'est de la farine, du beurre et du sucre qu'on travaille du bout des doigts, mais à la fin, on ajoute quelques cuillères de lait.
Quelques lignes uniquement de description, c'est dingue.
Et c'est super rapide et on ne pré-cuit pas les fruits, sauf les coings, parce que c'est quand même beaucoup plus dur, sinon on aurait du béton dans l'assiette. Donc je pré-cuis les coings avec un tout petit peu d'épices. Et pardon, Émilie Dardenne ne mange pas le cobbler parce qu'il contient du beurre, je lui ai fait des poires pochées avec un sirop épicé, lesquelles épices ont servi un petit peu à la pré-cuisson du coing du cobbler.
Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Dardenne?
C'est super. Je ne mange pas trop de fruits cuits d'habitude, mais là, elles sont parfaitement cuites.
Génial. Avec encore un petit peu de fermeté?
Oui.
Et j'ai ajouté de la figue parce que c'est important dans ce cobbler que le jus de cuisson des fruits remonte un peu à la surface et fasse un peu comme un petit caramel. Et j'avais peur qu'avec juste les coins et les poires, il n'y ait pas assez de liquide qui remonte.
Mais là, ça a marché, ça a marché.
Ouais, bravo, ouais, Elvira. La super bizarre, bonne nouvelle, c'est que les trois recettes que vous nous avez présentées aujourd'hui sont sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Et si l'on veut une vision panoramique de votre cuisine, de vos bricolages culinaires, encore une fois, on peut se tourner vers ce gros bouquin assez épais qui contient 150 recettes dans ma cuisine aux éditions Marabout. On lui souhaite un vif succès auprès de nos auditeurs.
Merci beaucoup.